Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Instant Japon. Dominique Buisson va continuer aujourd'hui de nous parler du manga, de la culture du manga. On a vu dans la première émission, Dominique, c'est pas d'aujourd'hui le manga, nos enfants adorent ça, mais finalement nos grands-parents ont pu aussi les aimer, nos arrière-grands-parents, puisque le manga est né à l'époque, on va dire, d'Okusai, même s'il n'en est pas, vous nous l'avez révélé, le créateur, véritablement. On en était à la fin de l'émission dernière à parler notamment du Roi Léo et des mangas des années 50. Alors bien évidemment, tout ça a beaucoup changé, bien évidemment, ce ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui.
Forcément, mais heureusement, il y a des révolutions.
Oui.
La première réellement importante sur le fond et la forme est celle des Fabuleuses de Showa 24.
Qui sont ces Fabuleuses ? Vous nous faites rêver. Qui sont ces Fabuleuses, Dominique ? Ça nous fait rêver, ça.
Alors, ce sont 6 mangas, 4, je mets ça au féminin, qui sont nés approximativement autour des années Showa 24. Showa, donc l'ère Showa, 24e année, ce qui correspond à peu près à 1950.
D'accord.
Ce sont les premières dessinatrices remarquables dans ce milieu jusque-là très masculin. Elles ont le même âge et donc les mêmes préoccupations sociales, politiques et esthétiques. Le Japon macho vient de perdre la guerre.
Ah, oui.
Il est temps de redéfinir le mâle japonais. Elles vont le choisir androgyne, viril mais raffiné et délicat. L'homme idéal, quoi. Ce sera le bishonen, le beau jeune homme, à l'allure efféminée.
Ah, c'est vraiment... C'est à l'inverse des valeurs guerrières traditionnelles du Japon.
Il fallait, là. La recherche de parité graphique va même pousser les auteurs à jouer avec l'ambiguïté homme-femme, à tel point qu'il est parfois difficile d'ailleurs de repérer qui est une femme et qui est un homme dans le dessin. Pour cela, il va falloir créer d'autres codes d'identification. En conséquence, les Fabuleuses en question révolutionnent aussi les codes esthétiques classiques qui étaient basés sur la sobriété, l'allusion, la discrétion, pour superposer des fonds expressifs, des grands yeux et des symboles divers. Elles sont donc plus dans le remplissage que dans les purs zen.
Ouais.
Habituées aux idéogrammes, les Japonais sont capables de distinguer les personnages par quelques détails infimes. Ce n'est donc pas un handicap. Alors nos Fabuleuses font apparaître, par exemple, autour de la tête des personnages, des éléments symboliques comme les fleurs, ou des éléments expressionnistes comme les éclairs de surprise, les flammes de la colère, les étincelles de l'émotion, des tempêtes assurées du tourment. Elles ajoutent des effets comme les fameux éclairs pika-pika.
C'est quoi ça ?
Pika-pika, ça veut dire feu d'artifice en japonais.
Ah.
Dans les yeux, vous savez, il y a plein de petits...
Des petites paillettes, oui, comme
des petites paillettes dans les yeux. Les fleurs, bien sûr, sont hyper codées. La pâquerette, la simplicité. Le chrysanthème, la sensibilité. Le rose, les roses, la sensualité, etc. etc.
Ouais.
Donc, elles vont surcharger le dessin d'informations pour simplifier la compréhension.
Est-ce que les lecteurs...
Et pour surtout différencier l'homme de la femme.
Ouais. Alors, les lecteurs ou les lectrices japonaises s'y retrouvent, bien évidemment. Mais vous pensez que les lecteurs français, par exemple, du manga, s'y retrouvent avec ces symboles ? Oui, ils les intègrent.
Ils sont très codés et très répétés.
Oui,
au bout d'un
forcément.
Moment, ils ont tous compris. Hein. Quand on fait d'autres petites hachures sous les yeux, ça veut dire que le personnage se sent un peu honteux, par exemple.
Ouais.
Donc voilà, ça, tout ça, c'est des codes extrêmement faciles à mémoriser.
Ouais. Ce sont donc des mangas là plutôt à destination d'un public féminin, ce dont on parle.
Alors, bien sûr, ce sont les femmes qui essayent de redéfinir la relation homme-femme, évidemment, a priori, au départ, pour les femmes. Les filles ont droit au manga.
Oui.
Bon, ça, c'est important aussi. Mais pas exclusivement, d'ailleurs, parce que de nombreux hommes vont lire ces productions féminines sur l'homosexualité féminine.
Ah.
Parce que comme il y a cette ambiguïté au niveau du dessin, il y a une ambiguïté aussi au niveau de la sexualité des personnages, par exemple.
L'homosexualité était, par exemple, un tabou très fort au Japon avant ?
Eh ben non, justement.
Non.
Il suffit de voir beaucoup de récits guerriers dans le milieu des samouraïs, par exemple. Il y a un film de Oshima qui est paru qui s'appelle Tabou, qui était basé là-dessus. avec Kitano comme acteur très connu qui jouait dedans. Ça, c'est comme à l'époque romaine.
Ouais.
C'était pas un tabou en soi.
Ouais.
Ce qui était un tabou à la limite potentiel, c'est le fait que les femmes s'en emparent de cette chose-là.
D'accord.
Et là, ces fabuleuses vont introduire, vont révolutionner la logique graphique du manga, mais également, elles vont introduire la transgression homosexuelle.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ça, c'est extrêmement important aussi, parce que de même que les femmes adorent lire des mangas sur l'homosexualité masculine, il y a une sorte de tentative de redéfinition de la sexualité de l'homme et de la femme au Japon, qui était extrêmement marquée, codée jusqu'alors. Donc, c'est une manière indirecte de réfuter la norme du samouraï viril, guerrier, et de la femme soumise.
La femme soumise.
Avec un credo... Si ça tarde à venir dans le réel, laissons-le le faire dans l'imaginaire. C'était d'ailleurs le cas avec Tezuka. Osamu Tezuka, 1953, quand il a produit Princesse Saphir.
Ah ben oui, parce que Princesse Saphir, c'est un prince, si mes souvenirs sont bons.
À sa naissance, la jeune Princesse Saphir se voit attribuer par erreur deux cœurs. De couleur bleue, celui d'un garçon, et de couleur rose, celui d'une fille. Donc ses parents, le roi et la reine, sont obligés de la faire passer pour un prince, afin qu'elle puisse hériter du trône. Féminine et excellente escrimeuse, au bout du compte, elle renverse
les
codes.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc ça existait déjà. Après, il y aura aussi la Rose de Versailles. Il y aura d'autres grands dessins animés basés sur cette ambiguïté, justement, de la princesse ou du prince, féminin, masculin, etc., pour, évidemment, là, comme ça se passe dans les milieux de la royauté, c'est pour devenir roi, princesse.
Ouais.
Ou, bon. Mais il y a quand même cette ambiguïté-là qui est à la base.
J'ouvre une petite parenthèse. Est-ce que ça finit, parce qu'on date des années 50 quand même, ça finit par avoir un impact sur la manière dont les jeunes se perçoivent
Pas réellement. Mais par contre, au niveau des fantasmes, donc au niveau de la manière dont on peut fuir le réel, par exemple,
ça peut
avoir son utilité, on va dire.
Ouais.
Mais outre la révolution sexuelle et les codes d'expression, ces femmes vont... Et ça, c'est vraiment très intéressant, révolutionner également le cadrage et la mise en page. Pour donner une forme, d'ailleurs, qui corresponde le mieux au sentiment. Briser les cases, en adoucir les contours, en les fondant ensemble, en les chevauchant, comme un collage. Elles font apparaître aussi des personnages en pied, pour donner plus de dynamisme. Ces personnages, parfois, marchent même sur les cases des autres, dessins, quoi.
Ouais.
Créant ainsi une perspective en trois dimensions. Elle propose aussi d'exploser la composition en gaufrier, avec ces fameuses cases quadrangulaires. Elles osent les cases triangulaires, trapézoïdales, etc. Du coup, la lecture cinématographique est renforcée.
Ouais. C'est assez virtuose, d'une certaine manière, d'ailleurs.
Ah oui, ouais. C'est un vrai travail de graphisme.
Ouais. Est-ce que vous pouvez citer quelques-unes de ces fabuleuses?
Alors, je ne résiste pas à citer en premier Keiko Takemiya, parce que c'est une amie. Elle est d'ailleurs la doyenne des mangakas, de l'association des mangas au Japon. Elle a longtemps dirigé l'université Seika, qui est l'université du manga au Japon. Tout ce que je viens de dire au niveau du style graphique, c'est elle la patronne absolue. Ensuite, il y a Ryoko Yamagishi. C'est à elle qu'on doit le premier manga traitant de l'homosexualité féminine. Ensuite, Ryoko Ikeda. Alors elle est très connue en Occident parce que c'est elle qui a dessiné La Rose de Versailles, qui a été adaptée en dessin animé sous le titre Lady Oscar, et qui passait au Club Dorothée autrefois. Elle est la première femme mangaka professionnelle, vraiment. Yumiko Oshima, créatrice de la Cat Girl Chibineko, et de manga sur l'homosexualité masculine. Comme sa collègue Moto Hagio, dont les œuvres appartiennent essentiellement au domaine de la science-fiction et du fantastique. D'ailleurs, toutes ces femmes-là ont beaucoup, beaucoup travaillé dans le domaine de la science-fiction.
Ah oui, d'accord. Elles n'ont pas été victimes de censure à un moment ou à un autre? Non, pas spécialement.
Non, pas spécialement.
Non, non.
On peut encore citer Hideko Mizuno, ancienne assistante de Tezuka. Alors elle, elle crée des personnages virils et romantiques à la fois. C'est-à-dire que ces filles, qui sont très romantiques, vivent souvent des aventures de garçons. Enfin, on peut ajouter à la liste Yumiko Igarashi, mais elle, elle est restée dans le registre préadolescent. Beaucoup moins polémique, évidemment. On lui doit l'ultra célèbre Candy Candy en 1975. Le pur manga de style shoujo, manga pour filles.
Donc il y a des mangas pour filles et je suppose des mangas pour garçons quand même.
Oui, bien plus encore. Allons-y pour les grandes familles. Allez. Alors, le shoujo. Ce type de manga s'adresse à un public féminin. Ce sont des histoires à l'eau de rose. La présence des fleurs et de joyaux est fréquente. La romance y est omniprésente. Bon, là, c'est calé. Shonen, qui signifie garçon en japonais. Alors, le shonen manga est destiné à un jeune public masculin. Les ingrédients sont l'aventure, les combats, le sport. Alors, il y a quelques sous-genres intéressants à noter. Il y a le neketsu, qui montre des héros exaltés.
Exaltés, c'est-à-dire des... Ah oui, ouais, vraiment, puissance 10, quoi.
Voilà. C'est... Et puis alors, un genre très japonais, le pansu, qui montre les petites culottes. C'est-à-dire que là, l'histoire, quelle qu'elle soit, il faut de toute
faut
façon
toujours
que...
qu'on voit sous les jupes des filles, comme voilà. Dirait Alain Souchon.
C'est la vision du chat, hein. Toujours montante. Le seinen. Alors là, c'est, on entre dans la catégorie jeune adulte mâle, politique, social, littérature. Josei, la même chose pour les femmes. Amour, maternité, cuisine. Alors, il y a une catégorie qui s'appelle, en japonais, Redis. Redisu, ça s'écrit. Hein. Mais c'est la traduction de Ladies, en anglais. Alors après, ça se complique un peu. Il y a le Gekiga, manga réaliste, style révolte étudiante des années 70.
Oui, effectivement, je me souviens de ça. De révolte assez, extrêmement violente dans les années 70. Oui.
Il y a le Hentai. Alors là, c'est le porno,
d'accord.
La métamorphose, la perversion. Là, je ne détaillerai pas, il y en a pour tous les goûts. Il y a le suiri, enquête et meurtre, le shitei, humour, le shakai, les problèmes sociaux, et le mecha, les robots géants.
Tout est extrêmement compartimenté, en fait.
Très, très compartimenté.
Très compartimenté, ouais.
Le gros problème de tout ça, c'est quand le Club Dorothée a importé... Ça, il a importé des mangas. Il n'a pas fait du tout attention au public qui était ciblé à l'origine.
Ouais.
D'où la critique qu'il y a eu sur ce Club Dorothée, de l'extrême violence.
Par exemple, Jiro Taniguchi, on peut le classer là-dedans ou...
Alors, Taniguchi, il se classe dans une des catégories là-dedans. Ouais. On va dire, parce que ça, je ne les ai pas cités, mais adulte mûr, donc nostalgie, passé, etc.
Quelles sont les différentes étapes de la publication d'un manga?
Alors, avant d'être publié sous la forme de livre, les planches des mangas apparaissent dans des mangas de pré-publication, qu'on appelle des mangashi. Des sondages sont faits auprès des lecteurs, et chaque auteur, donc, qui propose une vingtaine de pages au maximum, saura si ce qu'il propose est validé ou pas par son public, en fait. Hein. Si le public adhère, on peut en reproposer d'autres à l'apparition suivante. En général, ce sont des mensuels. Ces mangashi sont énormes. Ils ont la taille d'un bottin téléphonique de chez nous. Ils sont imprimés sur un très mauvais papier, en noir et blanc, parfois même en bleu, avec des encres diluées. Ça, c'est pour la rentabilité. Il ne faut pas que ça coûte cher.
Comme les vieux comics américains que je disais quand j'étais gamin, d'ailleurs. C'était un peu ça, sur du mauvais papier.
En cas de succès, les auteurs vont pouvoir présenter leur travail dans des revues spécialisées de bien meilleure qualité. Là encore, avec coupon-réponse des lecteurs. Et puis finalement, si on passe toutes les étapes, on arrive à l'album. Alors l'album, il est beaucoup plus petit. Hein, c'est celui qu'on connaît ici. Hein, il peut rentrer dans une poche. Alors pour répondre à la rapidité de la parution des mangas, le mangaka est obligé de s'entourer d'assistants. Ça, c'est impossible, ou alors il travaille 20 heures sur 24. C'est une vraie folie. Parce que certains grands mangaka peuvent livrer sous leur nom jusqu'à 100 pages par semaine. Donc il faut des assistants.
C'est bien payé alors, non ?
Alors, c'est bien payé quand on arrive à être très connu, comme ceux qui ont dessiné Naruto, One Piece ou des grands, grands classiques. Mais sinon, pour le reste, même pas. Très difficile. Par exemple, Akira de Katsumoto Otomo, c'est un manga de science-fiction, hein, vous connaissez peut-être, qui est né en 82. Lui, se caractérise par sa longueur. 10 années se sont écoulées entre la publication du premier et du dernier volume.
Ah oui.
Donc le gars, au bout de 10 ans, il était cuit. Hein. Sa richesse scénaristique, sa dynamique, sa qualité graphique ont nettement participé d'ailleurs à la diffusion du manga en Occident. Il arrive en France d'ailleurs en 90.
Ah oui. Ouais.
En cas de succès, les mangas sont parfois adaptés en dessin animé. En japonais, on dit animé tout court. Akira a été adapté en 88.
Ouais. Mais comment ça se vit, la culture manga ? Est-ce qu'il y a des lieux de prédilection où les gens se fréquentent ?
Alors, il y a beaucoup de lieux, d'autant qu'on peut en lire partout. Il suffit d'aller dans une librairie et on lit debout. Ça s'appelle le tachiyomi. Donc, on peut lire entièrement mon ouvrage et le reposer sans l'acheter.
Ça, c'est ce que fait mon fils à l'Esperluette, je le dis, je l'avoue. C'est ce qu'il fait avec les mangas. Ouais.
Hein. Et ben ça, c'est typiquement japonais. Donc, on peut lire aussi, on les voit dans les trains. Et puis, dans quelque chose qui est peut-être très japonais aussi à l'origine, les cafés manga, qu'on appelle des mangas kissa, dont certains sont ouverts 24 heures sur 24, avec douche, à la limite petit pain pour faire un break. On peut les lire aussi au Musée international du manga de Kyoto, puisque c'est un musée du manga, mais un musée de lecture du manga, et pas simplement un musée de collection de titres. Et plus largement partout, dans la mesure où le style manga a investi la publicité, les logos des marques, toutes les illustrations graphiques, c'est devenu vraiment un mode d'expression typiquement japonais.
Et vous n'avez pas encore parlé des cosplays ? Parce que ça, alors, quel phénomène encore ?
Le cosplay, ça, c'est quelque chose de quand même très, très particulier. Alors, ça vient de costume et de playing. Hein. Les Japonais adorent ces raccourcis phonétiques. Ces costumes sont des copies de ceux, évidemment, des personnages préférés du manga ou de jeux vidéo aussi. Hein. Faut pas oublier, les jeux vidéo ont beaucoup de cosplay. On se déguise ainsi en Naruto, en Tessera, en Luffy ou en Sailor Moon. Enfin, ça, je précise pour les lecteurs qui auraient une connaissance précise du manga déjà. Initialement, les amateurs, en très grande majorité d'ailleurs des filles, fabriquaient eux-mêmes leurs costumes. Et puis petit à petit, des boutiques se sont ouvertes dans les quartiers pour adolescents, comme Harajuku à Tokyo, pour les réaliser ou les acheter tout simplement. Donc pour ça, il faut absolument voir la célèbre Takeshita Dori. Cette petite rue bourrée d'adolescents déguisés dans héros, en tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est très, très marrant à voir. Alors à ce moment-là, il y a une influence mutuelle qui va se produire entre la mode et le manga, l'un influençant évidemment l'autre. D'où de nombreux sujets qui vont exploiter ces styles de mode teenager. Oui. L'exemple le plus typique est la mode soubrette. L'action de nombreux mangas se déroulant à la fin du 19e siècle dans les châteaux occidentaux, parce que ça c'est très romantique, voilà, c'est là où on retrouve nos fameuses princesses déguisées en princes et qui manient l'épée à la perfection. Et donc il y a beaucoup de servantes dans le décor. Et ces servantes vont souvent devenir des héroïnes. Donc leur costume historique va donner un style de mode. Alors je ne vous parle pas de tous les styles de mode, ils sont aussi nombreux que le style de manga.
Ah, oui, d'accord.
Il y a le décorachan, il y a le gothique, il y a le gothique noir, le gothique rose.
Enfin, c'est très, voilà.
Mais par exemple, pour le style maid, le style servante, le quartier de Akihabara, qui est le quartier historique de l'électronique et des jeux vidéo, c'est même spécialisé dans les maid cafés. Donc ce sont des cafés où les serveuses sont habillées en soubrette, Donc très court, mais avec le petit truc de chapeau qu'on met dans les cheveux là pour faire soubrette, etc. Et elle vous reçoit en vous appelant prince, jeune maître, etc. etc.
Voilà, bien longtemps qu'on ne m'a pas appelé prince.
Ben oui. Vous savez, Dominique. Ça fait un choc chaque fois. La mode, c'est la mode du kawaii en fait, hein, qui est si japonaise, qui vient de là aussi en particulier. Alors rappelons que ce style mignon a toujours existé au Japon. Par exemple, le maquillage de la bouche en petites cerises, des sourcils rasés dessinés en nuages légers de printemps, avait la même fonction hein, à la cour impériale de l'an 1000. Ouais.
On en voit partout ce style de personnage mignon au Japon.
C'est une mode qui a gangréné effectivement tout l'espace graphique japonais. Il n'y a plus d'ailleurs que du style kawaii, même pour les logos des sociétés dites sérieuses, des administrations comme l'armée ou la police, et même les temples.
Les temples
hein. Ils ont, oui, oui. Si un mangaka a un musée dans sa ville natale, par exemple, les bus, les trains, les bateaux de la région sont tous décorés de ces personnages. Par exemple, tous les trains et les panneaux de gare qui mènent à Sakai Minato sont décorés des personnages de Shigeru Mizuki, puisqu'il est né là-bas. De plus, de la gare jusqu'à son musée, plus d'une centaine de yokai sculptés dans des blocs de granit guident les voyageurs. Si on va à Ueno, les trains sont déguisés en ninja parce qu'il y avait une célèbre école historique de ninja dans le coin. Il faut dire que chaque ville, chaque préfecture, chaque club sportif a sa mascotte, en mode kawaii évidemment. Et il ne faut pas oublier les navettes fluviales qui remontent la rivière Sumida à Tokyo. L'une d'entre elles, bientôt trois, non, deux d'entre elles d'ailleurs, et bientôt trois, sont dessinées par Leiji Matsumoto. Qui est Leiji Matsumoto ?
Ah, je ne sais pas.
C'est le créateur d'Albator.
Albator.
Bon. Et donc là, ils ont fait très très fort parce que autant les autres sont des navettes sans âme, ou à la limite qui imitent les vieux bateaux de l'époque Edo, elles ont la forme de véritables vaisseaux spatiaux. Elles ont pour nom, les deux qui existent d'ailleurs, Himiko et Otaluna. Alors ça, chaque fois que j'emmène les gens au Japon, je leur fais prendre évidemment la remontée de la Sumida dans l'une de ces deux navettes, parce qu'elles sont très très spectaculaires. Il y a aussi un train à grande vitesse, hein, le Shinkansen japonais, qui est entièrement décoré dans le style de Neon Genesis Evangelion, qui est un dessin animé de 95, truc de science-fiction. Couleur, intérieur, extérieur, siège, décor, accessoires, dans ce TGV, tout est entièrement dans le style d'Evangelion.
Vous venez parler de dessin animé, alors justement le rapport entre manga et les animés.
Alors, c'est en principe la suite logique d'un manga qui cartonne, parfois d'un jeu vidéo. D'autant que, dans le langage courant, ici en Occident, quand on dit manga, on pense bande dessinée autant que dessin animé. Il y a deux moments phares pour le dessin animé. Il y a d'abord le Club Dorothée, qui a diffusé, sans respecter, je le répète, les codes d'âge, d'où le reproche de violence, des premiers classiques. Donc, rappelez-vous, Albator. Goldorak, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, Nicky Larson, Olivier Tom, Sailor Moon. Tout ça, ce sont, et puis il y a quelques dessins animés français qui ont été copiés sur le style manga de l'époque, hein, les Cités d'Or. Là,
c'est français,
ouais, c'était français.
Ah oui, d'accord.
Le deuxième temps, c'est l'apparition des dessins animés de Hayao Miyazaki, de Isao Takahata, et plus généralement du studio Ghibli qu'ils ont fondé. 97, rappelez-vous, Princesse Mononoke bat tous les records du box-office. 2002, Le Voyage de Chihiro remporte l'Ours d'Or à Berlin. Takahata, donc l'autre grand dessinateur du studio Ghibli, il est mort l'année dernière d'ailleurs, est moins connu que Miyazaki, pourtant c'est un très grand. On lui doit autrefois Heidi. Ah, oui. Ça aussi, c'est passé au Club Dorothée. Horus, le prince du soleil. Et le magnifique tombeau des Lucioles.
À ne pas montrer aux enfants trop jeunes. J'ai eu l'erreur de le faire. C'est un chef-d'œuvre. Mais il est extrêmement triste. Hein. Il est,
Et c'est l'adaptation d'un roman.
Ouais.
Donc c'est une histoire vraie. Hein.
Ouais.
Takahata a fait plus récemment Pompoko, une histoire de blaireau qui était très drôle. Et surtout son dernier, Le Conte de la Princesse Kaguya, qui était dans un style de dessin très 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 différent de tout ce qu'il avait produit, mais absolument magnifique, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Un petit détail en passant, il y a des amateurs de musique de dessin animé. Et donc des coffrets collector de Anison. Anison de animé plus song, en contradiction à la japonaise, ça donne Anison. Je rappelle que dans la même logique, et ça je ne peux pas m'empêcher de ne pas le signaler, air conditionné à la japonaise en contraction, air conditioned en anglais, hein, ouais. En contraction, ça donne aircon. Donc le grand classique des Français qui arrivent à Tokyo en plein été, qui vont chez les copains, commence par demander « Est-ce que tu as l'aircon ?» Enfin bon, ça c'était juste un petit déroutage. Mais le carton des cartons reste quand même typiquement japonais, c'est Anpan Man. Anpan Man, c'est un dessin animé qui date de 69. C'est un petit garçon fait de pain fourré à la pâte de haricots rouges qui se donnait à l'origine à manger aux gens affamés. C'est vraiment pour les tout-petits. Hein.
Ouais.
Aujourd'hui, il se bat surtout contre le méchant Baikin Man, le chef des microbes. Tous les personnages de ce dessin animé sont comestibles. Et la série est diffusée sans interruption depuis 1988. Et elle a toujours autant de succès. Et il y a même un astéroïde qui a été baptisé du nom de ce héros des tout-petits.
Dominique, il y aura encore beaucoup, beaucoup à dire, bien évidemment. Mais le temps nous manque. On arrive au terme de cette émission Instant Japon sur les mangas. Vous pourrez retrouver cette émission, bien évidemment, en podcast sur le site www.radiorentiel.fr. Dominique, on se retrouve dans 4 semaines, promis.
Promis.
Eh bien, excellente fin de journée à toutes et à tous.
Sur mon radeau, je t'entraîne. Sur mes ailes de phalène. Sur mes paupières, je t'emmènerai. Sur mon coursier, je t'emmène. Sur la mer. Sur ma bouche, je t'emmènerai. Accroche-toi à mes rêves, nous irons très loin. Dans ce village tout près de mes reins. Ces neiges de l'Ukraine, sur mes hanches je t'emmènerai. Sur mon planeur je t'emmène, sur les ailes de mon air pleine, sur mes chevaux je t'emmènerai. Accroche-toi à mes rêves, nous irons très loin, dans ce village tout. Sur mes cahiers, je t'emmènerai. Sur mon radeau, je t'entraîne. Sur la mer, à perdre haleine. Sur ma bouche, je t'emmènerai. Accroche-toi à mes rêves, nous irons très loin. Dans ce village tout près de moi.